5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Décollage.
Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Gérard.
Et bonjour à tous. C'est la 47e édition numéro de Orion Chemin de l'Espace. C'est une émission qui vous parle de la conquête spatiale, de l'actualité du ciel et de l'espace. Et c'est une émission qui est proposée par le groupe Orion, l'astronomie du Velay. Donc dans l'actualité de ce mois, eh bien, il y a d'abord un cinquantenaire qui s'annonce, parce que il y a 50 ans, on n'était pas encore allé sur la Lune, on n'avait pas marché sur la Lune, mais on n'en était pas loin.
On s'en approchait.
Et c'était le lancement d'Apollo 10.
Répétition générale.
Alors, quelques mots quand même sur l'histoire qui a précédé ce lancement dans la Lune et l'histoire des missions Apollo finalement.
Alors rapidement, 25 mai 61, le président Kennedy à l'époque dit « on enverra un homme sur la Lune et on le ramènera vivant avant la fin de la décennie ».
Oui, c'était une précision importante.
Voilà. Alors très vite, trois programmes, Mercury, Gemini, Apollo.
Oui.
Mercury s'arrêtera en 63. C'est un petit peu comment vit l'homme dans l'espace avec le programme Gemini, comment l'homme peut supporter l'espace déjà en orbite terrestre. Et puis très vite, le programme Apollo va s'orienter sur la Lune et aller poser le pied sur la Lune.
D'accord. Donc alors, Apollo 1, finalement.
Alors Apollo 1, c'est dramatique puisque c'est Grissom, White et Chaffee qui sont dans leur capsule au sommet de la tour. On n'avait pas dit Apollo 1 après, ça sera baptisé Apollo 1 que bien après. Donc ils sont dans la capsule pour faire des tests. Court-circuit, à l'époque on utilisait de l'oxygène pur au niveau de la NASA, et court-circuit, vous voyez ce qui peut se passer avec de l'oxygène pur, donc ils sont morts carbonisés
donc dans leur situation
Apollo,
de décollage, mais est-ce que le décollage était prévu?
Non, c'était pas prévu pour décoller, c'était une répétition, c'était des tests. Hein.
D'accord.
Voilà, donc ces trois hommes ont donné leur vie pour le programme Apollo, alors qui va le retarder? Hein, et puis très vite, on va rattraper ce retard pour arriver au 21 juillet 69.
Donc on est dans les années 63, 64, 65, là, et les missions Apollo se succèdent.
Alors elles vont se succéder parce que, vous voyez, on parle d'Apollo 1, puis d'Apollo 10, d'Apollo 11, mais au début on ne les a pas nommées, et on va avoir des missions qui seront rebaptisées après à partir, on va dire, d'Apollo 4, d'Apollo 5. Hein. Apollo 2, Apollo 3, ce sont des tests, mais on ne les a pas appelés parce que c'est uniquement de la répétition.
D'accord.
Mais où là ça va commencer à aller vite, c'est à partir d'Apollo 4 avec le test de la fusée Saturne 5, Apollo 5, les moteurs du LEM, Apollo 6, la qualification de cette fusée, Apollo 7, alors là, on va mettre des hommes en orbite terrestre, nous sommes en 1968, et trois hommes vont être en orbite terrestre et vont commencer les répétitions. La grosse répétition, c'est Apollo 8, nous sommes le 21 décembre 1968, Jim Lowell, William Zander et Frank Borman vont aller faire le tour de la Lune, au moment de Noël, et on se souvient donc de toute cette période, puisque nous sommes au moment de Noël, des timbres.
On est en 58, là.
En 68.
En 68, pardon, oui, puisque...
Oui, hein. Voilà, 21 décembre 68.
68, oui.
Voilà.
Donc, voilà, c'est une histoire, c'est une décennie très, très, très riche, parce qu'en fait, de 61 à 69, le pari du président Kennedy, en tout cas, le défi, va être...
Alors, le défi, vous faites bien en parler, Gérard, parce que c'est le concurrent soviétique à l'époque.
Voilà.
Donc, on essaye, il y a une compétition entre ces deux grands pays.
D'accord. Donc, et on sait effectivement maintenant, aujourd'hui, que ce sont les USA qui ont posé la première fois.
Oui, et puis qui, dès 65, on savait qu'ils avaient gagné. Hein. Enfin, eux ne le savaient pas, mais les Russes le savaient.
D'accord. Donc, on va voir maintenant, on va consacrer cette émission à Apollo 10, qui est une mission tout à fait particulière, puisque c'est l'ultime test avant le grand départ.
Yeah.
Jean-Michel, après un survol rapide, bien sûr, de ces différentes étapes qui ont préparé le voyage des hommes sur la Lune, on a vu effectivement qu'il y avait quelques succès, mais qu'il y avait eu aussi quelques malheureux échecs. Et puis, en mai 1969, c'est la mission Apollo 10. Alors, racontez-nous.
Alors, nous sommes le 18 mai 69. Donc, Gene Cernan, John Young et Tom Stafford, donc trois astronautes américains, donc on reparlera beaucoup par la suite par d'autres missions, donc prennent place dans ce module Apollo, en haut de cette fusée Saturn V, une énorme fusée, 115 mètres de hauteur, 2900 tonnes. Donc, vous voyez, ils sont prêts et ils partent donc en direction de la Lune. Alors, ce ne sont pas les premiers à faire tour de la Lune, puisque on a vu qu'il y en avait trois qui avaient fait juste le tour, mais eux vont s'en rapprocher. Ils vont se rapprocher. Alors, à la distance, j'ai trouvé trois chiffres. Hein. On parle de 13 km de la Lune, on parle de 16 km, mais dans un livre qui a été écrit justement en 1969, j'ai trouvé 15 km. Alors, c'est le chiffre que je retiendrai.
Alors, c'est peut-être la moyenne, c'était peut-être aussi elliptique, leur tour de Lune.
Voilà.
Enfin, bon, ils s'en sont rapprochés de manière tout à fait importante. Donc, alors, c'était quoi? C'était une répétition générale?
C'est la répétition générale, puisque dans ce module Apollo, il y a tout. Hein, il y a le module de commande, le module de transfert, il y a le LEM.
Il y a le LEM qui est
le lunar module, donc qui va poser les hommes sur la Lune, mais celui-là ne posera personne, hein, c'est une répétition.
Alors, pour nos auditeurs, le LEM, c'est effectivement cette araignée qui va se détacher
du module Apollo,
qui va venir se poser, enfin qui va venir allunir, plus exactement, à un endroit très particulier qui avait été prévu à l'avance.
Qui avait été déjà répété par Apollo 8. Hein, et justement, cette grosse mission donc de ces hommes, de Cernan et Stafford, ça va être de repérer des zones, de faire des photos, de s'approcher le plus près. Alors, dans une orbite très elliptique au départ et puis circulaire, et donc de s'approcher à ces 15 kilomètres.
Ah, voilà,
et puis de dire, ben là c'est bon et là c'est pas bon, il y a des cratères, c'est dangereux, attention, là il y a une petite montagne, donc ils vont choisir deux sites, hein, dans la mer de la tranquillité.
Donc, 18 mai, il y a tout juste 50 ans, donc c'était, ouais, c'était Apollo 10. Un mot sur ces trois hommes et tous ceux qui ont précédé d'ailleurs. Formation, enseignement d'une mission à l'autre, retour d'expérience, etc.
Oui, alors d'abord, bien sûr, il y a beaucoup de ces hommes seront des pilotes de chasse. Hein,
oui,
d'accord, parce que,
ce qui n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. On a beaucoup d'autres professions qui vont dans l'espace.
Voilà. Mais bon, pilote de chasse avec, bien sûr, on parle d'Armstrong qui a énormément de vols à son actif, hein. Mais bon, tous ces hommes savent manier, on veut dire, le manche à l'aide de l'avion, même si piloter un vaisseau spatial, c'est totalement différent, puisqu'il y a des procédures manuelles, mais il y a des procédures automatiques, hein. Déjà, l'informatique commence à rentrer dans ces vaisseaux spatiaux. Alors, bien sûr, on ne parlera pas de gigas, mais on parlera de kilooctets. Hein,
oui, depuis, on a beaucoup progressé dans la miniaturisation, dans la performance électronique.
Bon, vous voyez, un ordinateur, quelques kilooctets qui 30 kilos, voilà.
Alors, tous ces hommes qui ont participé aux missions Apollo et celles que qui ont précédé, est-ce que c'était une même génération d'hommes, de candidats spationautes?
Je vais vous répondre très simple, c'est l'étoffe des héros.
C'est l'étoffe des héros, mais bon, on partait comment? On savait à l'avance qu'on partait dans 2 ans ou dans 4 ans ou bien...
Alors, il y avait toute une préparation.
Oui, il y avait, bon, ils partageaient, c'était une équipe qui partageait.
Alors, il y avait une équipe, donc, par exemple, si on prend Mercury, c'était une équipe de 7 personnes, hein, voilà, on parle souvent des 7 de Mercury. Après, pour les programmes Apollo, on a appelé beaucoup de monde. Hein, parce que bon, il y avait des tests physiques, des tests psychologiques, la connaissance du matériel, la répétition au sol, les entraînements, tout ça. Et puis il suffisait, d'un petit quelque chose, on partait pas. Malgré que ça, ils sont partis.
Et une question que l'on se pose souvent, est-ce que, par exemple, dans toute cette population prête à partir, par exemple Neil Armstrong, est-ce qu'il savait qu'il serait celui qui aurait à poser ou alors ça s'est fait au dernier moment?
Ça s'est fait, on va dire, dans les derniers moments. Il y avait un équipage type, un équipage de rechange, toujours, un équipage de secours, hein, parce que si un petit rhume, peut empêcher de partir.
Donc, grosse préparation. Et cette mission Apollo 10, c'est franchement l'ultime répétition.
Oui, et avec quelques petits problèmes.
Avec quelques petits problèmes.
Oui.
Voilà, ultime test avant de poser le pied sur la Lune. Bien sûr que, comme on le disait tout de suite, un certain nombre de problèmes, ça ne s'est pas fait simplement, c'est un véritable exploit.
Alors justement, c'est d'où cette grosse répétition. Donc déjà, 85 000 km de la Terre, ils partent et puis ils regardent cette Terre, ces hommes-là. Et donc, comme on dit, quand on quitte la Terre, quand on orbite terrestre, on la voit quand même, on voit sa rotondité, on est très proche. Mais déjà, 85 000 km, ils se retournent et ils voient cette boule qui devient toute petite dans le noir du cosmos. Et donc Cernan dira que tout cela, pour lui, c'est très très impressionnant. Il y a peut-être un sentiment de peur aussi qui tourne même autour de ces hommes, même s'ils sont bien préparés.
Voilà.
Alors là, déjà, il commence à y avoir des petits soucis sur les hublots. Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que l'isolant et les parties qui étaient utilisées pour faire les joints, eh ben, commencent à obscurcir un petit peu ces hublots. Ça avait été déjà vécu, mais c'est pas au point. Donc il y aura aucune conséquence, mais ça.
Là, on est sur Apollo 10. Hein.
Oui. On est sur, ça leur fait un petit peu de stress.
Voilà. On s'éloigne, il y a des petites fuites,
Alors, il y aura des problèmes aussi sur le périscope, voilà. Donc qui tourne mal.
Un périscope dans une...
Ben, c'est comme dans les sous-marins, vous voyez, c'est des...
Oui, mais c'est pas pour... on met pas la tête hors de l'eau.
On met la tête hors de l'eau, mais la tête, je n'allais pas dire ni hors de l'air, puisque là-haut, pour respirer, c'est difficile.
C'est pour avoir une vision panoramique, voilà. Parce qu'effectivement, il y a des hublots, on vient de le voir, ils ont quelques petits problèmes, mais on ne voit pas dans toutes les directions.
Alors, aussi, donc, ils ne joueront pas trop avec cet appareil-là, parce qu'ils se sont amusés un petit peu avec cet appareil-là, mais parce que ce périscope aussi leur permet, à l'aide de sextants, de se naviguer par rapport aux étoiles.
D'accord. À l'ancienne, comme les navigateurs.
Comme les navigateurs sur mer. On navigue, donc on se repère par rapport aux étoiles. Voilà. Alors, d'autres petits problèmes lorsqu'ils vont arriver autour de la Lune. Donc, y a des vannes qui vont mal fonctionner. Alors, ils ont eu peur, dépressurisation. Lorsqu'ils rentrent dans le module, dans le LEM, il y a des petits bouts de plastique qui se baladent, donc qui se sont détachés dans ces eaux. Vous voyez, il y a eu tout ça. Et puis, bon, on va tourner. Donc, on va faire... Alors, la Lune, elle fait 12 000 km de diamètre. Hein, vous voyez, le tour de la Lune, bon, la vitesse n'est pas la même qu'autour de la Terre, hein, puisque la station spatiale tourne à 27 000 km à l'heure. On va retourner au bord de la Lune, on arrive à descendre jusqu'à 6 000 km heure.
D'accord. Bien. Et donc, en termes de communication, ça a été fiable dès le départ?
Communication, elle est importante parce qu'il y a la radio, mais il y aura des images télévisées, il y aura des retransmissions télévisées aux États-Unis de cette mission Apollo 10.
Voilà, c'était vraiment la bande-annonce finalement de ce qui allait suivre très bientôt.
Et puis, donc, on va se décrocher, les deux modules vont se décrocher. Hein. Donc, il y en a un qui va rester en orbite autour de la lunaire et deux astronautes. D'autres vont descendre dans le LEM comme s'ils allaient se poser sur la Lune.
Voilà, alors donc là, c'est vraiment ce qui est nouveau et c'est dans ce dernier test, c'est effectivement que le LEM va se séparer.
Voilà, c'est la première fois.
C'est la première fois avec les deux hommes dedans.
Oui.
Donc c'est un peu comme...
Cernan et puis Stafford.
Grosse frustration de ne pas aller jusqu'au bout,
peut-être. Mais ça, ils se rattraperont.
Et ils sont partis, ils sont descendus loin, ils sont...
Alors ils commencent, je vous dis, une orbite elliptique et puis on va se rapprocher petit à petit et à chaque passage... Donc ils feront, je crois, sur Apollo 10, ils ont fait 32 révolutions autour de la Lune.
D'accord.
Donc il y a chaque passage...
Dans le LEM, hein?
Oui, dans l'ensemble.
Dans l'ensemble.
Oui, dans l'ensemble.
Mais le LEM, quand
alors
il
le
descend...
LEM lui-même, je n'ai pas noté le nombre
de révolutions.
C'est
une petite descente comme une montgolfière et puis on remonte?
On fait quand même
des tours. Ils ont quand même fait plusieurs tours.
Oui,
d'accord.
Voilà. Avec des moments intéressants, on va dire, parce qu'ils vont voler de concert. Vous avez le vaisseau Apollo, puis le LEM qui vole l'un à côté de l'autre. Et ils vont se regarder, ils vont se surveiller pour voir s'il n'y a pas eu de dégâts. On ne sait jamais, une petite impact météorite. Et tout.
Voilà, donc c'était vraiment la première des premières. On se détache. Doublement séparés de la Terre, on va dire. Puisque... Et puis, on y revient.
Alors, on se rapproche de la Lune.
Oui.
Là, c'est 15 km. Et puis là, donc, quand on s'est approché suffisamment près, je veux dire, qui a été fait par les ingénieurs, on va larguer la partie basse du LEM, celle qui tient tout,
celle qui restera sur la Lune, dans Apollo 11.
Et là, ils vont faire des tests. Donc, premier bouton, ça marche pas. Deuxième coup de bouton, ça marche. Les boulons explosifs, puisque ce sont tous des boulons qui explosent et qui permettent à ces deux parties de se séparer. Et là, le module dont on ne s'est pas servi, alors qu'il avait été, bien sûr, pas préparé comme une mission lunaire totale, il va aller s'écraser sur la Lune. Et eux vont remonter, vont reprendre leur révolution et puis ils vont rejoindre leurs collègues là-haut et ils vont...
Parce que c'est une autre affaire, effectivement, de revenir et d'être alors, au rendez-vous.
C'est justement... lorsqu'on va remonter de la Lune, donc la partie haute du LEM va se mettre à tournoyer. Donc on va refaire des procédures au sol, informatique, on va reparamétrer tout ça, ils prendront un peu de pilotage manuel et puis finalement, le fait d'avoir reparamétré tout ça va arrêter que le vaisseau, la partie haute du LEM se mettent à tournoyer un petit peu dans tous les sens. Alors, vous voyez cette répétition, on imagine ces zones, ils sont frustrés, ils sont pas allés sur la Lune. Le vaisseau repart se mettre à tournoyer. On imagine tout ce qu'ils ont vécu, toutes ces angoisses, mais ce sont des hommes dont on a vu la préparation qui sont parés à toute épreuve.
Voilà, on rappelle leurs trois noms parce que l'histoire les a pas trop retenus.
Jane Cernan, John Young et Thomas Stafford.
Voilà, c'était les trois hommes d'Apollo 10.
Mais Cernan retournera sur la Lune dans la dernière mission Apollo 17 et il écrira un livre qui s'appelle « J'ai été le dernier homme sur la Lune ».
Alors, on est en mai 1969. Apollo 10, va faire une répétition générale de la grande opération qui aura lieu avec Apollo 11 en juillet. Quelques petits tours de la Lune, un décrochage du LEM, une descente, on remonte, ça se passe bien. Et puis on rentre sur Terre.
Le retour sur Terre, on va dire, s'est très bien passé, sans souci, dans la précision des atterrissages, des directions. Donc ces hommes, ils sont soulagés. Après, on imagine toutes les émotions par lesquelles ils sont passés. Et là, le problème, c'est que pendant ces quelques jours, ils ne s'étaient pas rasés. Ils avaient une grosse barbe. Alors là, ils avaient eu l'autorisation d'amener un petit rasoir et de la mousse à raser. Et là, tous les trois, ils vont faire une grosse toilette pour revenir
sur
Terre.
Pour être présentable.
Très présentable, Alors, c'est une petite anecdote qui est racontée, par Cernan, avec beaucoup d'humour. Cette autorisation d'avoir amené une bombe de mousse à raser et un rasoir.
Eh bien, c'est un rasage
Et d'ailleurs, si vous allez sur les sites de la NASA, vous allez taper Apollo 10, vous verrez que des fois, on voit des photos avec ces hommes avec une grosse barbe.
D'accord. Et donc, ils retombent, ils arrivent sur Terre.
Ils retombent, la capsule Apollo se détache, tombe sur la mer, récupérée par les hélicoptères, porte-avions, ça va devenir classique.
Voilà, d'accord. Et donc, c'est un mois plus tard.
Mission donc accomplie, et un mois plus tard,
ça sera le grand jour.
La réussite.
Ce sera d'ailleurs l'objet de notre prochaine... nous raconterez ça
dans une prochaine
en
émission.
Détail. Et puis, je crois qu'avec RCF, on aura l'occasion de faire une soirée spéciale Lune à l'Observatoire du BETS, mais ça, on vous en reparlera. Alors, bien entendu, ce cinquantenaire est important, mais il y a encore aussi dans l'actualité certains événements que l'on peut relater ensemble. Alors déjà, puisqu'on était avec les États-Unis, restons avec les USA. Un test de deux concurrents d'ailleurs, pour des vols habités.
Oui, donc SpaceX et donc Boeing. Alors SpaceX, c'est le Dragon Crew. Qui permet donc d'emmener des hommes dans l'espace. Normalement, on devrait pouvoir emmener ces hommes-là en juillet de cette année, mais vu qu'il y a eu des retards, donc il y a eu une capsule qui avait brûlé un petit peu lors de tests au sol, et donc le 4 mai, suivant des tests, le retour des parachutes se sont mal déployés, donc il n'y a pas eu de conséquences, mais il y a eu un atterrissage un peu rude, il n'y avait personne à l'intérieur, puisque c'est un test. Et donc SpaceX pense qu'il lui faut une dizaine de tests pour que son vaisseau soit fiable. Vous voyez, on a fait des répétitions sur la Lune,
on retrouve un petit peu...
Tant qu'un vaisseau n'est pas fiable, avec toutes les sécurités.
Sauf que là, ce sont des sociétés privées. Donc on a le temps à passer en 50 ans. Oui. Et le marché, entre guillemets, de l'espace s'est développé. Il y a de plus en plus de concurrents. Donc SpaceX et Boeing.
Alors Boeing, Oui. Boeing succès des parachutes pour le vaisseau qui s'appelle Starliner.
Starliner, oui.
Donc, test sous parachute, tout s'est très bien passé, je crois que c'était la semaine dernière.
Donc là, on est sur les mêmes objectifs de
deux capsules, deux concepteurs différents, ouais. Mais deux capsules avec parachute, vous voyez. On retrouve quelque part la capsule Apollo.
Hein. Oui. Bon, les lancements ont évolué, les retours et le transport, je veux dire, il y a de la miniaturisation, il y a de l'informatique, etc.
Ce qui va changer aujourd'hui, c'est qu'il y a une informatique énorme.
Mais la manière de partir, il faut des lanceurs puissants, la manière de revenir, il faut pas trop brusquer tout ça.
Ouais.
Donc là, on est dans des cargos. Alors, le cargo, des cargos existent, des cargos de marchandises, de fret, mais là, ce sont des cargos pour emmener des hommes, des femmes.
Pour des vols habités.
Des vols habités. Voilà. Donc ça, c'était les USA. Et puis, puisque ces cargos vont ravitailler l'ISS, il y a aussi une actualité. Qu'est-ce qui se passe-t-il sur l'ISS en ce moment ? On en parle peu.
Alors oui, parce que l'ISS, il y a des hommes et des femmes qui sont dans la station spatiale, qui font le tour de la Terre en 1h32 minutes. Donc ils ont besoin de carburant, ils ont besoin de nourriture, et surtout beaucoup de tests donc médicaux. Alors donc actuellement, on peut dire que sur cette station spatiale, il y a 6 vaisseaux accrochés.
Donc, ça bouge.
On veut dire que tous les ports d'attache sont occupés, puisque nous avons 2 Soyouz, nous avons 2 cargos Progress et nous avons une capsule donc de chez SpaceX et puis le Cygnus, donc vous voyez, donc qui est accroché, donc côté russe et côté on va dire américain, c'est bien occupé.
Donc les hommes ne manquent pas de ravitaillement à bord d'ISS en ce moment. Ils sont combien? Toujours 6.
6. Et avec des fois il faut ravitailler parce que il faut aller très très vite. Notamment, je vous donne une petite anecdote, une expérience qui s'appelle Tissue Ship.
Tissue Ship.
Alors, Tissue Ship, ça n'a rien à voir avec
les pommes
chips.
C'est pas du japonais, non ?
C'est pas des pommes chips. Hein. Ce sont des puces. Alors, c'est un petit peu en tridimension pour étudier les cellules humaines dans une matrice tridimensionnelle. Donc, c'est tester la réponse des cellules aux médicaments et aux modifications génétiques. Vous voyez que
tout ça,
on fait des expériences médicales dans l'espace.
Ça, c'était l'ISS. Et puis la Chine, bien sûr, toujours les Chines. Alors, il y a l'histoire de ce petit robot, là, qui est parti sur la face cachée de la Lune.
On revient sur la Lune, mais sur la face cachée.
Qu'est-ce qui se passe?
Ce petit robot U2, donc, qui était prévu pour 90 jours, mais qui fonctionne toujours. Vous voyez, alors, 90 jours terrestres.
Hein, oui.
Mais les jours lunaires, ils durent 28 jours.
Oui.
Voilà. Donc, on peut dire qu'il en est à ton 5e jour. Vous voyez, le premier jour, elle a fait 44 mètres, et puis ainsi de suite. Et au total, aujourd'hui, on totalise 190,66 mètres. Mais donc, il commence à faiblir. Alors, il fait toujours des études des roches autour de lui, hein, donc des prélèvements de roches et des analyses sur place. Mais il faiblit. Donc, c'est vrai qu'entre les températures, lorsque le soleil brille et lorsqu'on est dans la nuit, les températures sont extrêmes là-haut et ça le sollicite beaucoup.
Donc ce petit robot vient de faire à peu près 200 km de travail. Il produit beaucoup.
190 mètres.
200 mètres, pardon. Oui. 200 mètres, oui. Sur cette Lune en 5 jours lunaires, c'est-à-dire 5 fois 28 jours terrestres.
Voilà.
Et puis pour terminer, comme chaque fois, quelques recommandations de lecture ou de sortie, je ne sais pas, qu'est-ce que vous nous proposez ce mois-ci ?
Je ne vous proposerai pas une sortie dans l'espace.
Ah, mais, c'est dommage.
Mais je vais vous proposer deux lectures, deux lectures simples, mais qui expliquent bien un petit peu la vie des astronautes dans l'espace. Alors il y en a un qui s'appelle « Histoire d'espace » de Jean-François Clairvoy, aux éditions Jacob Duvernay, et un livre un petit peu plus ancien qui s'appelle « Aventure dans l'espace », donc 20 récits extraordinaires de Jean-François Pellerin, donc A2C Média, donc c'est l'éditeur.
Pellerin. Donc le premier, Histoire d'espace.
Voilà.
Et Aventure
dans l'espace.
Dans l'espace. Le premier, c'est un astronaute qui Jean-François Clairvoy. C'est lui aussi qui propose des vols paraboliques.
Voilà. Alors si vous voulez faire une sortie, bien sûr.
Voilà.
Donc c'est sur la base de Bordeaux, un avion parabolique. Alors par contre, le ticket d'entrée est relativement cher.
Alors,
avec l'examen médical.
Alors on va voir avec la rédaction de RCF Le Puy-en-Velay si on peut pas faire un petit concours et faire gagner un vol en apesanteur. Voilà, on verra ça. En tous les cas, cette émission se termine. Sabine. Donc, c'était un vrai coup de chapeau aujourd'hui à Apollo 10, puisque Apollo 10, il y a tout juste 50 ans, décollait, faisait le tour de la Lune, décrochait son petit LEM, s'approchait très près de la Lune, et c'était l'ultime expérience, répétition avant le grand jour où Armstrong, et Aldrin ont posé le pied sur la Lune. Et ça, ce sera notre histoire du mois prochain. Donc, à bientôt. Au revoir à tous.
Au revoir.
5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Décollage.